Vous écoutez, on lit pour vous.
Les éveillés et les endormis. Un texte de Chantal Guy, paru le 23 avril 2025 dans La Presse. Je n'avais pas envie de lire ce livre pendant ma semaine de vacances. Mais je suis allée jusqu'au bout de « Vivre avec les hommes ». Réflexion sur le procès Pellicot de Manon Garcia. C'est que, malgré les milliers d'articles écrits sur le procès de Dominique Pellicot, cet homme qui a soumis chimiquement sa femme pendant 10 ans pour l'offrir en pâture à des dizaines d'inconnus invités à la violer, je cherche encore des réponses à ce que ce procès hors norme a révélé de la masculinité. Plusieurs fois, j'ai voulu écrire sur cette affaire et j'ai renoncé. Ça me dépassait ou j'étais trop en colère. J'ai d'ailleurs remarqué que ce sont surtout des femmes qui ont chroniqué là-dessus. Et c'est une autre chose qui me déprime, le mutisme des hommes sur ce sujet. Pendant le procès, qui me faisait sacrer tous les jours en lisant les articles, j'ai interrogé quelques gars dans mon entourage. Qu'est-ce qu'ils comprenaient là-dedans de leurs semblables? Bruit de criquet. Ils ne pouvaient s'identifier ni au bourreau, ni à la victime. Ils trouvaient ça épouvantable, bien sûr, mais ne se sentaient pas vraiment concernés. Or, quand j'utilise le mot « semblable », ce n'est pas pour dire que tous les hommes sont des violeurs, mais pour souligner le caractère vertigineux, parce que trop vaste, de ce procès. Il n'était pas question d'un maniaque dans une ruelle. Dominique Pellicot recrutait ses complices sur un site en leur expliquant très clairement son intention de violer sa femme à son insu. Les enquêteurs ont pu identifier 51 hommes sur 72 dans les vidéos tournées par le mari. C'est au minimum 72 hommes qui ont répondu à son invitation. Et aucun internaute sur ce site n'a alerté, même anonymement, les policiers. Si Pellicot ne s'était pas fait pincer en train de filmer sous les jupes de clientes dans un magasin, Dieu sait pendant combien de temps son manège sordide aurait continué. Et sans le courage de Gisèle Pellicot, qui a voulu que tout soit dévoilé, nous n'aurions pas eu accès à un tel éclairage du côté sombre de la sexualité masculine. La philosophe Manon Garcia, professeure à la Freie Universität de Berlin, spécialiste des relations hommes-femmes, a assisté au procès Pellicot. Mais elle-même s'est sentie dépassée par ces cas. Il lui fallait réfléchir sur ce que cela impliquait profondément pour la société. Une des thèses centrales de ce livre est la suivante. Ce qui fait du procès des viols de Mazanes un grand procès au sens historique, c'est paradoxalement et qu'il met un terme à l'espoir exclusif placé dans le judiciaire, écrit-elle. C'est le procès qui montre que les procès ne suffiront jamais. Si un homme, seul dans une bourgade comme Mazanes, parvient à faire venir chez lui au moins 70 hommes différents, habitant dans un rayon de moins de 50 kilomètres de chez lui, combien y a-t-il d'hommes en France prêt à violer une femme inconsciente si l'occasion se présente? La question est légitime, puisqu'en Allemagne, des enquêteurs ont infiltré des groupes d'aide au viol sur la messagerie Telegram Et l'un des fils de discussion regroupait plus de 70 000 utilisateurs. Ce qui est aberrant est que la plupart des accusés ne se considèrent pas comme des violeurs, puisqu'ils avaient le consentement du mari de Gisèle Pellicot. Ce qui révèle en même temps que pour eux, une femme droguée par son mari n'a pas vraiment de droit. Elle n'est qu'un corps, pas un sujet. Et le côté nécrophile de la chose ne semble pas les déranger, comme pour ces types qui utilisent la drogue du viol dans les bars. Dans une entrevue à Libération, Manon Garcia dit que l'éducation au consentement n'est pas le seul problème. La vérité, c'est que ce qu'il s'est passé avec Gisèle Pellicot n'est pas un malentendu. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne savent pas que c'est interdit. C'est qu'ils n'en ont rien à faire que ce soit interdit. Ils n'en ont rien à faire que ça détruise. Donc, oui, il faut de l'éducation. Mais il s'agit d'éduquer les hommes à comprendre que les femmes sont des personnes. Manon Garcia ne veut certainement pas comparer les viols de Mazan à la Shoah en citant « La banalité du mal » d'Anna Arendt. Mais ce qui la sidère chez tous les accusés est leur incapacité à réfléchir à ce qui les a menés à ces actes, à parfois même ne pas comprendre ce qu'il y avait de mal là-dedans. Leurs excuses pitoyables énumérées dans le livre confirment une absence de pensée comme une impossibilité d'empathie envers la victime au moment des faits. Et rappelons ici qu'à part quelques accusés qui avaient des antécédents en la matière, la plupart de ces hommes, dont les âges varient de la vingtaine à plus de 70 ans, sont vus comme des gens ordinaires, même par les psychiatres. Ce sont des pères, des frères, des époux, des fils, des amis, des voisins. Plusieurs ont été soutenus par leur conjointe, victime collatérale de cette affaire. Il faut voir le documentaire « Les femmes de Mazan » qui a été diffusé sur RDI et qui est toujours disponible sur tout.tv. Ce que Manon Garcia a décrit ainsi à Libération, la façon dont certaines femmes ont bondi au secours des hommes illustre aussi les contradictions de la masculinité. Les hommes sont très forts, mais il faut tout le temps les sauver. Ils sont très intelligents, mais incapables d'introspection. Ils sont, soi-disant, à la tête du monde entier. Mais il leur faut un droit à l'erreur, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ne viole pas une femme sédatée. Bref, comment vivre avec les hommes après le procès Pellicot? C'est l'une des grandes questions, parmi d'autres, soulevées dans l'essai de Manon Garcia, qui cite la célèbre affirmation de Marguerite Duras. Il faut beaucoup aimer les hommes. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible. On ne peut pas les supporter. À cela, elle se permet d'ajouter « Mais je commence à penser qu'il faudrait qu'ils aiment un peu les femmes. Un peu, juste un peu. Qu'ils nous aiment un peu pour qu'on puisse continuer à les aimer. » C'était « Les éveillés et les endormis », un texte de Chantal Guy, paru le 23 avril 2025 dans La Presse.
Les musées auront besoin d'aide financière pour acquérir les artefacts de l'abbé, un texte de Tara Deschamps de la presse canadienne paru le 21 avril 2025 dans Le Devoir. Les musées, les galeries et les autres établissements d'archives auront probablement besoin d'aide financière pour acquérir des artefacts de la baie du Tson. Des historiens soulignent que la plupart des organismes publics ne disposent pas des fonds nécessaires pour acquérir facilement des objets appartenant à cette entreprise en difficulté, vieille de 355 ans. La réalité est que les institutions d'archives canadiennes manquent d'argent, indique Cody Grote, professeur adjoint en histoire et études autochtones à l'Université Western de London, en Ontario. Le patrimoine culturel souffre d'un sous-financement chronique partout au pays. Ce problème existe depuis de nombreuses années. Les remarques de M. Grote font suite à l'annonce, la semaine dernière, que la baie du Tson, la plus ancienne entreprise du Canada, demandera jeudi à un tribunal l'autorisation de vendre aux enchères ses 1 700 œuvres d'art et plus de 2 700 artefacts. L'ancienne entreprise de traite des fourrures, devenue grand magasin, n'a pas précisé quels articles seraient disponibles au-delà de la charte royale accordée à la baie du Tson par le roi Charles II en 1670. Cette charte a permis à l'entreprise de se constituer, en plus de lui conférer des droits sur une vaste étendue de territoire couvrant la majeure partie du pays, ainsi qu'un pouvoir extraordinaire sur le commerce et les relations avec les Autochtones pour des décennies. Une source familière avec sa collection, mais non autorisée à parler publiquement, a indiqué à la presse canadienne la semaine dernière que des tableaux, des couvertures à points, des documents papier et même des poupées Barbie de collection font partie du trésor. Des sommes importantes en jeu. Bien qu'il soit difficile d'attribuer un prix à l'histoire, M. Grote s'attend à ce que certains des articles les plus en vogue de la baie du Tson génèrent des montants importants. La charte, à elle seule, pourrait être mise aux enchères pour une somme considérable, dépassant les budgets d'acquisition très faibles dont disposent les musées, selon l'historien. Il y a eu des précédents à l'époque, par exemple, où des établissements d'archives ont tenté de mettre en commun leurs ressources pour conserver des collections au Canada. Mais ce n'est pas une pratique courante, car les fonds disponibles sont limités, explique-t-il. Adèle Perry, professeure d'histoire à l'Université du Manitoba, partage l'avis de M. Grote sur la situation des institutions susceptibles d'être intéressées par les actifs de la baie du Tson. La plupart de ces organisations sont très précaires en matière de financement, et elle soupçonne qu'elle devrait se tourner vers les donateurs pour obtenir de l'aide. Bien que plusieurs musées n'aient pas répondu aux questions de la presse canadienne sur leur souhait d'acquérir des œuvres d'art ou des artefacts de la baie du Tson, de nombreuses organisations semblent surveiller la demande de protection contre les créanciers de l'entreprise et les deux processus déjà en cours pour la vente de ces actifs. Plusieurs parties, dont des institutions gouvernementales et paragouvernementales, des musées, des universités et des particuliers fortunés agissant de leur propre chef ou en tant que donateurs potentiels de certains musées et institutions canadiens, ont manifesté leur intérêt pour la collection d'art dans le cadre d'un des processus de vente, a énoncé Adam Zalev, directeur général de Reflect Advisors, le conseiller financier de la baie du Tson, dans une déclaration sous serment déposée le jeudi 17 avril. Plusieurs parties ont également exprimé leur souhait que la collection d'art soit accessible au public dans un musée ou une autre institution publique. Un accès pour tout le monde. Madame Perry estime que l'accès du public aux objets de la baie du Tson mis en vente est absolument crucial en raison du pouvoir conféré à l'entreprise par la Couronne d'agir en quelque sorte comme un colonisateur et un gouvernement. Nous nous attendons généralement à ce que les archives gouvernementales soient responsables envers les personnes qui vivent dans ces lieux et qui font partie de leur histoire, dit-elle. Je pense donc qu'il est très important que nous demandions des comptes à la compagnie de la baie du Tson et à quiconque elle est confiée. Elle estime que l'accès du public aux biens est d'autant plus important lorsqu'il n'existe pas de duplicata de documents, de photographies ou de textes d'œuvres disponibles ailleurs, comme au musée du Manitoba. En 1994, l'abbé a fait don d'une grande partie des 27 000 objets que l'institution de Winnipeg abrite. Une grande partie de cette collection est entrée en 2007 au registre Mémoire du monde de l'UNESCO, qui vise à préserver les documents d'importance historique et culturelle, mais n'empêche pas leur destruction ou leur vente. Madame Grote rappelle que la charte n'a pas obtenu cette distinction, car la compagnie en était toujours propriétaire. Le Comité consultatif canadien de la mémoire du monde a exprimé de manière indépendante à la compagnie de la baie du Tson son souhait que la charte soit transférée à un service d'archives publiques afin d'en assurer la conservation et l'accès à long terme, indique Vanessa Poulin-Gladu, porte-parole de la Commission canadienne pour l'UNESCO, dans un courriel. Pourtant, M. Grote souligne qu'il est possible que le document ne trouve pas d'accès public, ni même canadien. Il n'existe aucun mécanisme législatif au pays pour empêcher cette charte de tomber entre les mains du secteur privé à l'heure actuelle, explique-t-il, bien que le Canada dispose de politiques d'exportation culturelle susceptibles de retarder une vente à un acheteur étranger. C'était Les musées auront besoin d'aide financière pour acquérir les artefacts de l'abbé, un texte de Tara Deschamps de la presse canadienne, paru le 21 avril 2025 dans Le Devoir.
Restez bien branchés. Un texte d'Éric Lefrançois, paru le 14 avril 2025 dans la presse. Ce qui est utile à savoir avant de prendre le volant de votre voiture électrique. Durabilité des pneus. Les véhicules électriques usent les pneus beaucoup plus vite. Plusieurs études réalisées tant au Canada qu'aux États-Unis ou en Europe estiment que l'usure d'un pneu classique par une voiture électrique est 20% plus rapide. Le poids des batteries rend ces véhicules plus lourds, mais il faut aussi compter sur la vélocité du couple au moment de l'accélération. En outre, la décélération est aussi beaucoup plus forte, aidée par les dispositifs de récupération d'énergie au freinage. Autonomie. Ne négligez pas la qualité des pneus. On savait depuis un moment déjà que la dimension des pneus jouait un rôle dans l'autonomie d'un véhicule électrique. Peut-être étions-nous moins au fait que la qualité du pneu a aussi son importance. Pour vous en convaincre, consultez le site de Ressources naturelles Canada. Vous constaterez, par exemple, qu'un véhicule comme la Dodge Charger AWD chaussée de pneus Goodyear 20 pouces parcourt 65 km de plus que le modèle équivalent équipé de pneumatiques de marque Nexon, 20 pouces toujours. Programme roulé vert de retour après une pause. Suspendu temporairement, le programme gouvernemental québécois roulé vert a été réinstauré le 1er avril 2025. Il prévoit une remise de 4 000 $ à l'achat ou à la location d'un véhicule électrique neuf d'ici au 31 décembre 2025. Les véhicules d'occasion peuvent bénéficier d'une remise de 2 000 $ 2025 au même titre que les véhicules hybrides rechargeables neufs dotés d'une batterie d'une densité supérieure à 15 kWh. Entre 8 kWh et 15 kWh, une aide financière de 1 000 $ est accordée. Ces sommes sont imposables. À noter que les véhicules immatriculés entre le 1er février et le 31 mars 2025, soit pendant la suspension temporaire du programme, ne sont pas admissibles à l'aide financière. Bilan environnemental, positif mais pas parfait. Une voiture électrique n'émet pas de CO2 sur son passage et pratiquement pas de particules, mais cette évidence n'en fait pas une voiture propre pour autant. Sa production et celle de ses batteries mobilisent beaucoup plus d'énergie et de matières premières que dans le cas d'un modèle traditionnel. En outre, son bilan carbone fluctuera en fonction de la source utilisée pour produire l'électricité. Au Québec, c'est excellent. Ailleurs dans le monde, pas si sûr. Cela dit, si la voiture électrique n'est pas 100% pure et verte, elle présente un bilan beaucoup plus positif qu'un modèle thermique dans l'ensemble. Le bilan environnemental d'un véhicule électrique est meilleur que celui d'un véhicule thermique avant même d'accumuler 100 000 km, et ce, toute taille de batterie confondue. C'était « Restez bien branchés », un texte d'Éric Lefrançois paru le 14 avril 2025 dans La Presse.
Harvey Milk, c'est du café latté? Une chronique de Nicolas Vandal parue le 28 avril 2025 dans le magazine Fugue. Il y a quelques semaines, je prenais un verre avec un gars plus jeune, 25 ans. Une rencontre douce, pleine de confidences spontanées, comme on en fait parfois tard le soir dans un bar. Il me parlait de son coming out, de ses crises d'anxiété, de ses relations éphémères et de sa difficulté à s'attacher. Puis, au fil de nos échanges, je mentionne Harvey Milk. Rien. Silence complet. Il m'a regardé comme si j'avais parlé d'une marque de café. Pour tester, j'ai enchaîné. Stone Wall? Même regard. Act Up? Il a froncé les sourcils. J'ai déjà vu des t-shirts avec ça dessus. C'est une marque? Je n'ai pas levé les yeux au ciel. Je ne me suis pas roulé par terre en hurlant au drame générationnel. J'ai juste souri, en pensant qu'on a un sérieux problème de mémoire collective. Je ne veux pas jouer au vieux sage. J'ai 35 ans, 5 cheveux blancs, et je perds beaucoup trop de temps sur Instagram pour donner des leçons. Je suis d'une génération qui n'a pas eu besoin de se battre pour ses droits civiques, qui peut veiller dans le village sans craindre une descente de police. Je peux aimer qui je veux, me marier ou adopter un bébé qui me réveillera à chaque heure de la nuit si ça me tente. Mais quand je regarde autour de moi, les queers de mon âge et plus jeunes, je sens une ignorance troublante de notre passé. Ce n'est pas propre à la communauté LGBTQ+, mais ça nous atteint plus fort parce qu'on n'a pas, comme d'autres groupes, de transmission familiale. C'est là le cœur du problème. Un juif grandit avec l'histoire de son peuple. Un enfant noir hérite des luttes de ses ancêtres. Mais nous, on est généralement dans une famille hétéro qui ne sait rien de notre histoire. On doit souvent tout découvrir seul. Au secondaire, j'ai appris la Révolution tranquille, les luttes féministes au Québec, les noms comme René Lévesque et Thérèse Casgrain. Mais jamais, à aucun moment, on ne m'a parlé des gens qui avaient saigné pour que je puisse aimer sans me faire cracher dessus. Pas une seule ligne dans les manuels. Je les ai découverts dans un vieux documentaire mal traduit, en fouillant sur Internet ou à travers des rencontres avec des queers plus âgés. C'était avant YouTube et les réseaux sociaux. Évidemment, cette transmission ne repose pas que sur les épaules des aînés. Beaucoup ont payé trop cher leur visibilité, et je comprends leur pudeur, leur fatigue. Certains sont morts avant même d'en avoir la chance, et d'autres n'ont tout simplement jamais eu le temps ni l'espace pour transmettre. Cela dit, les plus jeunes ne sont pas complètement démunis. Jamais l'accès à l'information n'a été aussi simple. 3 clics suffisent pour tout savoir. Notre histoire queer, autrefois clandestine, est maintenant accessible, documentée, archivée. Encore faut-il vouloir s'y intéresser. Soyons honnêtes, ce n'est pas juste la génération d'aujourd'hui. Je doute que les jeunes gays des années 90 connaissaient vraiment les luttes des années 60, et ainsi de suite. On a toujours eu ce problème de transmission, parce qu'on n'a jamais pu compter sur la famille ou l'école pour nous raconter notre histoire. On a dû se construire seul, en grappillant ce qu'on pouvait, quand on le pouvait. Récemment, j'ai visité les archives gays du Québec. J'ai feuilleté des tracts jaunis, des photos de manifs oubliés, des lettres presque effacées. J'étais là, avec mes gants blancs, à lire des fragments de vie qu'on a réussi à préserver. J'avais l'impression de fouiller dans une mémoire qui aurait pu être la mienne, si j'étais né un peu plus tôt. Ça m'a remué plus que je ne l'aurais cru. Ce lieu devrait être un passage obligé, pas par devoir militant, mais pour ressentir ce lien viscéral avec celles et ceux qui ont marché avant nous. Et cette mémoire, il ne faut pas la repeindre en rose. Notre histoire n'est pas parfaite. Certaines drag queens ont été rejetées par des gays qui se disaient respectables. Des lesbiennes ont été mises à l'écart. Des personnes trans ont mené des luttes sans jamais être reconnues. Notre histoire est faite de tensions, de frictions, de contradictions. Et c'est justement pour ça qu'elle est précieuse. Pas pour ériger des statues, mais pour comprendre d'où l'on vient, pour ne pas répéter. Je crois aussi qu'il faut arrêter de mépriser ce qui nous précède. Il y a une tendance grandissante à vouloir tout déconstruire, parfois même ce qui nous a sauvés. J'entends parfois que les prides sont devenues trop commerciales, que les symboles sont dépassés, que les combats d'hier n'ont plus rien à voir avec aujourd'hui. C'est peut-être vrai sur certains aspects, mais ce n'est pas une raison pour faire table rase. Ce sont ces combats, ces symboles, même imparfaits, qui nous ont permis d'être là. On peut les critiquer, bien sûr, mais on peut aussi leur dire merci. Tout ça me travaille, pas par nostalgie ou parce que je veux qu'on se mette à genoux devant notre passé, simplement parce que l'ignorance est dangereuse. Elle n'est pas arrivée par accident. Elle est le fruit d'un système qui a voulu nous effacer. Ne pas connaître notre histoire, c'est risquer de refaire les mêmes erreurs. C'est croire que nos droits sont garantis à jamais, alors qu'ils peuvent disparaître vite si on baisse les yeux trop longtemps. Je ne dis pas qu'on doit devenir historien ou militant, ni qu'on doit vivre dans le passé. Je dis juste « souvenons-nous », parce qu'un jour, ce sera à nous de raconter. Et si on n'a rien retenu, qu'est-ce qu'on va transmettre? C'était « Harvey Milk, c'est du café latté », une chronique de Nicolas Vandal parue le 28 avril 2025 dans le magazine Fugue.